journal Loïc Barrière. En Tunisie, l'UGTT annonce avoir formé un quartet pour sortir le pays de la crise économique et politique. Le secrétaire d'État américain attendu au Proche-Orient alors que la tension est montée d'un cran après la mort de 9 Palestiniens tués par Israël à Jénine. Un colloque sur la situation en Israël et en Palestine, organisé le vendredi 3 février au Sénat, entretien avec Esra Siam, juriste et collaboratrice parlementaire de la sénatrice Esther Benbassa. À l'occasion de la visite à Paris du Premier ministre irakien, la France et l'Irak renforcent leur coopération stratégique, en particulier sur l'énergie. Enfin, nous ferons le point sur la visite de la présidente du Conseil italien cette semaine en Algérie. Entretien avec le journaliste Adlène Mehdi. En Tunisie, 4 organisations, dont l'UGTT, lancent une initiative pour sauver le pays face à la crise économique et aux divisions politiques. La centrale syndicale a créé un nouveau quartet avec la Ligue des droits de l'homme, l'Ordre des avocats et le Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Une initiative qui se veut aussi ambitieuse que le quartet qui avait obtenu le prix Nobel en 2015 pour son rôle moteur dans la transition démocratique. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken doit se rendre en Égypte, en Israël et en Cisjordanie dans un contexte tendu. 9 Palestiniens tués dans un assaut israélien à Jénine. À la suite de ce raid meurtrier, un deuil national de 3 jours a été décrété dans les territoires palestiniens, dénonçant un massacre. L'autorité palestinienne a mis fin à la coopération sécuritaire avec Israël. C'est dans ce contexte qu'est organisé dans une semaine un colloque intitulé Israël-Palestine, état des lieux. La rencontre aura lieu le vendredi 3 février au Sénat. Elle est organisée par la sénatrice écologiste Esther Benbassa. Parmi les intervenants, Leïla Chaïd, Elias Sambar ou encore Denis Siffer. Un colloque ouvert à tous sur inscription. Pour nous en parler, Esra Siam, juriste et collaboratrice parlementaire de la sénatrice de Paris.
Ce colloque est né par une conversation entre la sénatrice et moi. C'est vrai qu'au regard de l'actualité, on se disait bien que la communauté internationale ne réagissait pas aux événements, par exemple, au nouveau gouvernement israélien qui porte quand même l'extrême droite au pouvoir, aux manifestations anti-gouvernement israélien et toujours la même occupation. 9 morts en Cisjordanie, 9 Palestiniens tués et 20 blessés. Donc c'est vrai qu'avec tous ces événements-là, personne pour en parler. Et donc la sénatrice de Paris s'est dit on va faire un colloque et on va réunir chercheurs, universitaires, élus et journalistes pour dresser un état des lieux de la situation et pas faire comme on connaît déjà l'histoire israélo-palestinienne, le conflit, mais au regard de cette actualité-là, comment envisager un nouveau processus de paix, comment le penser tout simplement, comment penser les relations entre Palestiniens et Israéliens.
Des sénateurs, des députés sont invités à ce colloque. L'idée, c'est que après ce colloque, il y ait peut-être des actions qui soient conduites par les parlementaires.
Oui, tout à fait. C'est le but, d'ailleurs. C'est se réunir et chercher une solution ensemble, ou au moins ne serait-ce qu'ouvrir le débat.
Alors, est-ce qu'on peut parler du programme de ce colloque ?
Alors, à la première table ronde, on a une terre de peuple. Donc ce serait pour parler à la fois des Palestiniens et aussi des Israéliens, comment ils vivent ou ne vivent pas ensemble. Ensuite, ce serait la table ronde Israël-Palestine vers une société d'apartheid. On met bien apartheid entre guillemets parce que on verra si vraiment on peut qualifier d'apartheid la situation en Israël et en Palestine. Il y a notamment plusieurs personnalités qui peuvent en parler, dont Rima Hassan, présidente du camp de l'Observatoire des réfugiés, qui a fait une thèse à ce propos, et Jean-Claude Samouillet, qui a carrément fait une analyse avec Amnesty International.
Et donc, ensuite, l'après-midi ?
Oui, Jérusalem, l'impossible capitale. Parce que vous savez que depuis Donald Trump, on parle de Jérusalem serait la capitale d'Israël, donc ou pas. Donc on aura Vincent Lemire, qui est le directeur du Centre de recherche français à Jérusalem. On aura Irène Salençon, Leïla Chaïd et Ilham Younes, qui est présidente de l'Observatoire du patrimoine d'Orient.
Et la dernière table ronde sera animée par Esther Benbassa.
Tout à fait, avec un horizon binational. Donc là aussi, c'est une ouverture. On a un point d'interrogation à un horizon binational, voir si c'est possible de créer cet État. Et donc, on aura aussi Denis Charby, Youssef Courbage, Elias Sambar et Jean-Paul Chagnolot pour en parler.
Ce colloque se déroule au Sénat, 15 rue de Vaugirard, le vendredi 3 février. Tous les auditeurs de Radio Orient peuvent venir y assister à condition de s'inscrire. Vous pouvez nous expliquer la procédure ?
Oui, tout à fait. Alors, nous avons un site internet qu'on a conçu spécialement pour l'occasion, israelpalestine.fr, tout simplement, ou s'inscrire via l'adresse mail inscription@israelpalestine.fr. Donc, nous recevons les inscriptions jusqu'au lundi 30. Ça part très vite. On a beaucoup de monde qui souhaite participer à notre événement. Ça dit beaucoup aussi de la société. Enfin, c'est pas un sujet qui est mort. On penserait que c'est le cas parce qu'on pense qu'on s'insurge uniquement quand il y a des bombardements, des offensives israéliennes ou des roquettes lancées par le Hamas. Mais non. La société s'intéresse encore au conflit israélo-palestinien et c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'en dehors des réseaux sociaux qui sont très actifs, aussi dès qu'il se passe un incident en Israël et en Palestine, les médias, en tout cas standards, sont très silencieux sur le conflit israélo-palestinien.
Esra Siam, juriste et collaboratrice parlementaire d'Esther Benbassa, ce colloque sur Israël-Palestine a lieu le vendredi 3 février au Sénat. Les inscriptions sont possibles sur le site israelpalestine.fr. Le Premier ministre irakien Mohamed Shia El-Soudani en visite en France. Son homologue Elisabeth Borne a souligné que la France se tient aux côtés de l'Irak pour affronter les défis de la reconstruction. Lors d'un dîner à l'Élysée jeudi soir, le responsable irakien et le président Macron ont décidé de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques accuse le régime de Damas d'avoir mené une attaque au chlore qui a fait 43 morts. Cela s'est passé à Douma, près de la capitale syrienne, en 2018. Les États-Unis ont éliminé un chef du groupe État islamique mercredi lors d'un raid en Somalie. L'homme s'appelait Bilal es-Soudani. 10 autres personnes liées à l'organisation terroriste ont été tuées. Selon Washington, cette opération décidée par Joe Biden n'a fait aucune victime parmi la population civile et aucun militaire américain n'a été blessé. Retour sur la visite officielle de 2 jours à Alger de la présidente du Conseil italien. Les questions énergétiques ont été au cœur du déplacement de Giorgia Meloni lundi et mardi. Entretien avec le journaliste et écrivain Adeline Mehdi.
La visite s'est beaucoup centrée sur la question énergétique et les exportations de gaz naturel vers l'Italie, bien entendu. Il y a eu aussi d'autres accords importants sur l'industrie, sur la concrétisation de l'usine Fiat qui devrait commencer sa chaîne de production ce mars prochain, l'installation d'une usine de Vespa aussi dans l'Est algérien, des coopérations aussi sur l'industrie militaire pour des hélicoptères italiens qui seraient montés ici en Algérie. Mais effectivement, c'est le volet énergétique qui a été le plus important. Un nouveau contrat avec la major d'hydrocarbures italienne Eni a été signé pour augmenter encore une fois le volume des exportations en gaz naturel de l'Algérie vers l'Italie. L'Italie qui, du souhait du président algérien et de Madame Meloni, devrait devenir le vrai hub énergétique pour l'Europe grâce à cette manne du gaz algérien.
Et vous le soulignez dans un article que vous publiez dans l'hebdomadaire Le Point, l'idée d'un second gazoduc entre l'Algérie et l'Italie a aussi été évoquée entre Eni et Sonatrach.
Oui, en fait, c'est un ancien projet qui date du début des années 2000. C'est le pipeline gazoduc Galsi qui passe de l'Algérie vers la Sardaigne et qui a été abandonné à un moment parce que n'oubliez pas qu'en Europe, on pensait à des nouvelles politiques énergétiques, vers la transition énergétique, etc. Donc les grands projets gaziers, pétroliers ont été mis de côté. Je pense que la guerre en Ukraine a poussé beaucoup de pays européens à revoir leur copie et de réinvestir dans ces infrastructures-là, d'autant plus que pour l'Italie, par exemple, sortir de la dépendance du gaz russe est très importante. Il y a un chiffre assez clair, c'est qu'en une année, l'Italie est passée, grâce aux exportations algériennes, de 40% de dépendance du gaz russe à 25% seulement. Et grâce au nouveau contrat qui a été signé, d'ici un an et demi, l'Italie sera plus dépendante du gaz russe.
Avec des relations qualifiées de très bonnes entre l'Italie et l'Algérie, c'est un élément important.
Oui, c'est un élément très important parce que sur le plan politique aussi, il y a une convergence des avis sur les questions régionales. Par exemple, l'Italie, contrairement à l'Espagne avec laquelle l'Algérie s'est brouillée, a maintenu une position assez médiane sur la question du Sahara occidental, à laquelle l'Algérie tient beaucoup. Il y a aussi une convergence de vues sur la solution politique et la nécessité d'un consensus et d'aller vers des élections en Libye. Sur le plan interne aussi, l'Italie fait partie des pays qui n'ont jamais quitté l'Algérie durant les années 90. Les entreprises italiennes sont restées. Et donc, il y a une forte relation qui a été boostée ces deux dernières années. On a eu des échanges de visites au plus haut niveau. Il y a des coopérations même dans les secteurs un peu sensibles, comme la coopération judiciaire. L'Algérie profite beaucoup de l'expérience italienne dans la lutte contre la mafia, la récupération des biens illicites, etc. Donc il y a une coopération multisectorielle qui prouve que cette relation est excellente pour le moment.
Lorsque l'on vous écoute, on comprend que la question mémorielle entre l'Algérie et l'Italie, plus récente, vous évoquez la décennie terroriste, joue plutôt en faveur de l'Italie aujourd'hui.
Oui, parce qu'on n'a aucun historique colonial avec l'Italie. Bien au contraire, c'est-à-dire que si on prend la figure de Mattei, qui était l'ancien PDG de l'UNI, qui était mort au début des années 60, grâce à ce patron de l'UNI, qui était un très grand homme politique de gauche aussi, issu de la résistance contre le fascisme, le FLN à l'époque a pu ouvrir un bureau en Europe, il a pu être aidé pour informer sur la guerre de libération à l'époque. Mattei lui-même a aidé les Algériens à négocier pendant les négociations d'Evian pour une meilleure exploitation du pétrole. Donc il y a des liens historiques très très forts qui remontent à cette période et qui restent un gage de bonnes relations pour l'avenir aussi.
Le fait que Giorgia Meloni appartienne à l'extrême droite italienne, cela n'a aucune incidence dans les relations entre les deux pays?
C'est la chose à laquelle s'intéressaient beaucoup d'observateurs ici, effectivement, parce que notamment sur la question migratoire. Or, sur la question migratoire, le plan qu'elle a déjà développé, qui s'appelle le plan Mattei, justement, parle de trouver d'autres solutions aux problèmes migratoires, qui est justement de donner plus d'opportunités à la jeunesse africaine de prospérer chez elle. Et on n'a pas ressenti ce discours un peu radical et xénophobe quand elle a évoqué ces questions-là récemment. Après, il y a la question du pragmatisme, c'est-à-dire que Mme Meloni a été élue par les élections, et donc elle est présidente du Conseil. Donc, quelles que soient ses idées, il y a quelque chose qui la dépasse de beaucoup plus, c'est l'intérêt des deux pays qui dépasse la conjoncture partisane.
Cette visite est intervenue quelques mois avant la visite prévue du président algérien Abdelmadjid Tebboune en France, une visite qui devrait se tenir en mai prochain, une visite d'État. Ce sera un événement, bien entendu, particulièrement important. Et là, la question mémorielle sera importante.
Oui, elle sera toujours d'actualité, la question mémorielle. On a la constitution des deux côtés de la composante d'une commission d'historiens. Il y a des gestes historiques qui ont été faits de la part d'Emmanuel Macron envers l'Algérie sur cette question-là. Il y a des promesses d'ouverture des archives des deux côtés. On attend toujours la concrétisation de cette étape-là. Mais il y a une sorte d'amélioration inéluctable, comme l'a dit un des responsables des affaires étrangères, parce que la secrétaire générale du Quai d'Orsay a été à Alger pour une rencontre avec son homologue. Donc on sent qu'il y a un saut qualitatif par rapport à la crise de la dernière année, et tout le monde est assez optimiste sur cette question. Maintenant, reste à savoir comment concrétiser des pas mémoriels. Est-ce que ça va concerner que des restitutions d'objets symboliques de la part de la France? Jusqu'où va aller l'ouverture des archives? Et jusqu'où on va laisser les historiens des deux rives travailler normalement et essayer d'évoluer vers un discours moins antagoniste et beaucoup plus apaisant pour la mémoire des deux sociétés c'est quelque chose de très important pour le présent et pour le futur.
Et face à la crise énergétique que vous évoquiez, la France a aujourd'hui besoin de l'Algérie et cela peut jouer bien entendu dans les différentes mesures qui vont être prises.
Bien sûr, parce que déjà du côté algérien, on se montre assez enthousiaste à augmenter le gaz, parce que quand on dit augmenter le gaz pour l'Italie, c'est aussi augmenter le gaz pour l'Europe. Il y aura de la coopération énergétique sur le plan d'électricité entre l'Algérie et la France. Il y a beaucoup de perspectives parce que l'Algérie ne peut pas rater l'opportunité, entre guillemets, l'opportunité malheureuse de la guerre en Ukraine pour se positionner comme étant un acteur fort comme s'impose aujourd'hui le Qatar ou demain l'Égypte avec les nouvelles découvertes offshore très importantes au large de la mer en Égypte. Donc c'est une opportunité pour l'Algérie, mais il faut les concrétiser tout au long des mois prochains.
Comment l'Algérie se positionne sur cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, sachant que Alger aurait le soutien de la Russie pour sa demande d'adhésion au BRICS, comme vous le rappelez dans votre article publié dans Le Point?
Oui, c'est une question très intéressante parce que, justement, quand il y a eu les premiers accords entre Alger et Rome sur l'augmentation de l'approvisionnement en gaz, la Russie a déclaré via son ambassadeur ici à Alger que cela ne gênerait pas du tout l'excellence des relations entre Alger et Moscou, et que si c'est l'intérêt de l'Algérie, elle est souveraine dans sa politique énergétique. Et l'Algérie a montré la même attitude envers la Russie en disant sans aucune ambiguïté que puisque c'est son intérêt à elle, elle ne peut pas le marchander ou subir des pressions. Il n'y a pas eu de pression entre les deux. Sur un deuxième plan, dans la dernière interview de M. Thibault au Figaro en 2022, il avait lancé une phrase assez ambiguë ou qui est en même temps claire, parce qu'il dit que l'Algérie ne trouve pas que c'était une bonne idée que l'attaque. Et ça rejoint un peu l'idée du non-alignement que l'Algérie veut imposer sur sa ligne diplomatique. Donc, on est dans de très bonnes relations avec la Russie, qui est un allié et un ami traditionnel depuis les années 60, qui est un partenaire sur l'équipement militaire très important, qui est un partenaire sur les questions internationales aussi. Mais en même temps, l'Algérie se garde d'avoir sa propre ligne quand il s'agit de ses intérêts énergétiques, et c'est comme cela que c'est présenté par les officiels algériens.
Le journaliste et écrivain Adeline Mehdi, il répondait à François-Xavier de Calonne. Cette édition est terminée. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Pierre Luce, ancien référent départemental de Renaissance dans les Yvelines. Avec lui, nous évoquerons la réforme des retraites. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de Radio-Orient.